Radio Campus 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qu'il est, putain de merde!
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve!
C'est pire que la guerre!
Permettez que je jette un coup d'œil à la flèche du métier.
Moi je comprends rien.
Moi non plus.
Moi non plus.
Et ça, réfugiez-vous dans le détail.
Avouez, cher monsieur, la mésaventure qui va suivre vous est déjà.
Cette crise est en fait au départ un crime.
L'origine de la crise, c'est quoi? C'est
la crise. Traversée, la
dans les pays qui ont été fortement impactés par la crise,
notamment de la part d'entreprises qui faisaient des gros bénéfices.
La crise? Quelle crise?
Cette crise n'est pas terrible.
Allez, on passe au plan B.
Allez, top!
C'est l'heure de le mettre.
Vous savez pas tout de
rouge,
c'est évident.
Parce que ça change, on fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend mais qu'on n'y peut rien, puis dans une heure on s'arrête pour aller casser la graine.
Nous ne voulons pas de la lutte des classes.
Et puis tout à coup, explosion sociale, occupation d'usine.
Ouais, la révolution par exemple, on sait jamais, vous vendez tout.
Franchement, tu salis le tapis avec ton sang.
C'est quoi vous dire que l'engin est révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans ses conceptions.
Ah, vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
Parce que c'est difficile d'expliquer
Si j'étais UFP, on dirait que c'est un dérapage.
Vous dégueulez sans mes foutus par ange, hein ?
Bien évidemment, c'est un repli par rapport à un acquis social.
Nous ne sommes pas là pour rechercher des boucs émissaires.
Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches.
La connerie à ce point-là, ça devient gênant.
Qui c'est cela?
C'est l'heure de le mettre.
L'heure de le mettre.
Vous allez le mettre où, ça?
Moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
Et puis,
30 ans après, c'est encore le même conseil social. Et la chanson, c'est la même.
Hein, il y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs. Et puis à la fin du compte, on n'a rien.
Je n'ai que faire des chômeurs assistés.
Mais tu vas forcément toucher, les jamais tombé en panne de poste. C'est tout le temps que je prends les pas. 100 fois, tu dis. Jamais, je n'ai pas
de poste. Merde, on a honte. Merde.
Avec un rêve du poil. Avec un rêve du poil.
Aujourd'hui, mercredi 20 octobre, c'est la Saint-Sondage exclusif. Comme son nom l'indique, Saint-Sondage exclusif est le saint patron des sondeurs qui exclut toute présence de gauche dans leurs savantes études. On sait jamais. Et comme chacun sait, Saint-Sondage exclusif n'a pas pour fonction de démontrer ce que nous pensons, mais a bien pour objectif de déterminer ce que nous devons penser. Aussi, il apparaît que Saint-Sondage exclusif est une véritable photographie instantanée de l'opinion de la bourgeoisie à l'instant T. T comme trouille. En additionnant toutes les voix de droite sur la base des chiffres formels de Saint-Sondage exclusif, nous arrivons à un total de 120%. Ah ouais, c'est beaucoup, ouais. Mais il y a une marge d'erreur hein, de 3 à 5%. Ce qui par ailleurs ne compromet pas la lame de fond que la bourgeoisie appelle de ses voeux et qui doit voir la droite battre la droite, quelle que soit la configuration du premier tour. Hein. Ou à l'inverse, éventuellement, la droite battre la droite. Bah oui, car on n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises. Rabaman. Ce que révèle Saint-Sondage exclusif, au-delà de ces quelques considérations de spécialistes, c'est que le candidat de droite Macron doit impérativement être présent au second tour et en tête. Ah, c'est le deal, c'est un préalable dans la course à l'Elysée, il faut lui laisser une bonne longueur d'avance et le laisser jouer tous ses matchs à domicile. C'est comme ça. N'oublions jamais que, comme le démontre Ipsos dans sa dernière enquête, Macron est le candidat de la fraction dominante de la bourgeoisie. Mais face à lui, le suspense doit demeurer. C'est la règle du jeu. Coubertin, etc. Il faut qu'un candidat, ou une candidate, c'est la démocratie, ne l'oublions jamais. Les gens sont morts pour que la truie fasciste puisse se présenter. Il faut qu'un candidat, donc, ou une candidate d'extrême droite, ou à la rigueur de droite extrême, puisse servir de sparring partner au candidat de la droite dure, alias les borgneurs. Et comme il manquait encore un peu de candidatures de droite et qu'on ne peut plus trop compter sur le PS pour servir de leurre, un sondage exclusif propulsa l'un de ses poulains les plus prometteurs, une espèce de Laval en encore plus rabougri, Mr. Burns quoi, hein, qui est l'image même de la fraction collaborationniste de la bourgeoisie pour s'assurer qu'aucun espace ne serait plus laissé à ce qu'il est coutume d'appeler la gauche. Ah ben, parlons-en de la gauche. Même si c'est un sondage exclusif, canonisé de la droite à la droite, n'en parle pas. Mais c'est... Dans le groupe de la France pour la qualification à la Coupe du Monde, il y a le Kazakhstan. Pour le prochain Tour de France, il y aura quelques porteurs d'eau dans le peloton pour emmener les leaders sur la ligne d'arrivée. À Roland-Garros, il y aura des joueurs mal classés qui seront invités. Aux Jeux Olympiques d'hiver, on conviera une délégation de skieurs sénégalais. Pour la bourgeoisie de ce pays, c'est dans ce type de configuration qu'on peut laisser un espace à la gauche pour la grande élection de 2022. Mais évidemment, les candidatures symboliques doivent être multiples pour garantir l'échec cuisant de Mélenchon. Non, pas pour empêcher le populisme de nuire. De l'ingénieuse Hidalgo au mielleux Montebourg, de l'asperge verte au parti qui tire à boulet rose dans le vide, les quelques pourcents glanés ici et là devraient pouvoir garantir une certaine continuité dans les affaires. À ce niveau, d'ailleurs, la demi-douzaine de sectes trotskistes habituelles devient purement, c'est bien le mot, purement, superflu. D'ailleurs, au vu de ces sondages exclusifs, n'est-ce pas l'élection elle-même qui deviendrait superflue ? Aujourd'hui, mercredi 20 octobre 2021, le soleil s'est levé, accrochant ses lilas jusque sous nos fenêtres. Il se couche pour mater mes corbeaux qui déjeunent et mes fleurs qui se tordent sous les électrochocs. Et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus et sur campuslille.com.
Oui, je vous entends. Les bureaux de vote viennent de fermer, hein. Je suis actuellement devant le QG de campagne de Moustadias, hein. Bon, sera-t-il élu président ? On sait pas, oui, je l'aperçois, oui, Monsieur Dias, oui. Bon, les Français ont voté, les jeux sont faits, hein. Maintenant, c'est trop tard, hein. Donc vous pouvez nous dire la vérité, qui êtes-vous vraiment, Monsieur Dias ?
J'ai passé mes diplômes et j'ai fait mes classes. Je fais partie des élites et des rois de la paperasse. J'incarne l'image du parfait républicain, teinté d'idées et de réflexes puritains. J'adapte mon discours à chaque circonstance. La démagogie d'un sport que je pratique avec aisance. Je manie la rhétorique avec intelligence. Paraphrase interminable pour me donner de l'importance. Je veux être le patron, le grand chef, le Manitou, le capitaine, le big boss, le grand gourou. J'ai faim de pouvoir, j'ai besoin de dominer. Et j'irai, je le jure, jusqu'au bout de mon projet.
Ah si j'étais président, ah si j'étais président de la République, ah si j'étais président, je serais certainement un vieux con bourré de fric. Ah si j'étais président, ah si j'étais président de la République, ah si j'étais président, je serais certainement un vieux con bourré de fric.
Justement, hein, monsieur Dias, bon, certaines mauvaises langues se plaisent à dire, hein, que votre discours est dépassé, usé, qui plus est, avec toutes les casseroles que vous traînez, hein, pensez-vous que les Français auront pu faire confiance à un escroc notoire comme vous ?
Je suis une ordure, une enflure, une raclure, immoral, arrogant, la pire des crevures, bourgeois, nostalgique et réactionnaire, je rêve d'expulsion et de lois sécuritaires, pas de place pour les boiteux incompétents, marche ou crève, pas le temps pour les sentiments, un pays se gère comme on gère une entreprise, recettes, dépenses, chiffres d'affaires et bénéfices, je monte les gens, les uns contre les autres, les blancs contre les noirs et les riches contre les pauvres. Je manipule et agis sur les peurs de chacun. Je divise, attise la haine entre êtres humains. Chacun son traitement, sa justice et ses droits. Chacun son ghetto, sa culture et ses lois. Retour aux traditions et à l'ordre moral. Autorité, fermeté, ça va faire mal.
Ah si j'étais président, ah si j'étais président de la République, ah si j'étais président, je serais certainement un vieux con. Ah si j'étais président, ah si j'étais président de la République, ah si j'étais président, je serais certainement un vieux con pour
être. Ah, c'est énorme, c'est énorme.
énorme, les résultats viennent de tomber. Monsieur Diaz vient d'être élu président de la République avec plus de 89% des suffrages. Monsieur le Président, quel est le secret de votre réussite, votre majesté?
Pour être président de la République, je t'explique qu'il faut savoir parler faux, avoir un gros ego, tremper dans un tas de petits trucs pas très très nets, être chatter, menteur pour tout dire, pas très très honnête. Trafic d'influence, abus de biens sociaux, abus de confiance faux et usage de faux. Pauvre vin distribué par-dessous la table, être au-dessus de la loi parfois, mais toujours aimable avec les pauvres, les riches, toutes les classes d'âge. Changer d'avis de chemise au gré des sondages. Et si la concurrence s'avère plus coriace que prévu, tu sors les vieux dossiers par un juge corrompu. Et une fois élu, tu regardes la France dans les yeux et tu lui dis:
Française, Français, je vous ai menti.
Ah si j'étais président, ah si j'étais président de la République, ah si j'étais président, je serais certainement un vieux con bourré de fric. Ah si j'étais président, ah si j'étais président de la République, ah si j'étais président, je serais certainement un vieux con bourré de fric. Ah si j'étais président, ah si j'étais président de la République, ah si j'étais président, je serais certainement un vieux con bourré de fric. Ah si j'étais président, ah si j'étais président de la République, ah si j'étais président,
sur les marges de l'Élysée. Oui, et le sentiment qui prédomine, c'est la consternation la plus totale. Je sais pas quoi vous dire. Avec un tel président, nous risquons de devenir la régie du démocratie occidentale et des plus autres. Oh, rupture de faisceau, c'est la merde. Jean-Michel Verboutel, en direct de l'Élysée.
C'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus, comme tous les mercredis à 7h-ci, ou à peu près. En fin d'émission,
la rubrique cassette.
Et juste avant,
on retrouve la semaine à Cuba. Donc.
Enfin, la semaine à Cuba, ouais. Après oui.
Un programme de Radio Habana qui nous est proposé. Et puis encore avant, parce que vous avez remarqué qu'on fait les choses à l'envers, hein. On dit d'abord ce qu'il va y avoir à la fin, un reportage sur...
Des prises de parole qui ont eu lieu la semaine dernière à Valenciennes, là, à l'université
où des étudiants étrangers...
Des Hauts-de-France.
On en a parlé la semaine passée.
On en a parlé la semaine passée. Puis on en reparle, puis ils sont toujours en grève aujourd'hui encore hein, pour... Oui. À réclamer
la gratuité,
en tout cas ne pas payer des sommes exorbitantes pour pouvoir faire des études en France.
Tout ça dans un paysage français, hein, puisque de plus en plus quand je parle de ce pays, Ali, j'ai l'impression de parler de l'étranger. J'ai l'impression de devenir étranger, je sais pas trop.
C'est comme si on parlait d'une république bananière, je sais pas. Comme si on parlait du Panama avec l'armée états-unienne qui est là sur place.
Tout le monde s'étonne un petit peu, ou s'étonne ou pas. De la propagande actuelle, hein, qui est une propagande pétainiste en fin de compte. Ah, alors, comme on dit chez nous, en fin de compte, c'est une propagande pétainiste. C'est pas totalement étranger à la France, hein, quand même, cette histoire. Le fascisme, vous savez, il y a des gens.
Tu vas pas dire que c'est une tradition française.
Si, je pense, oui, c'est une tradition française de très longue date, et avant même l'Italie, avant même l'Allemagne, il y a une tradition fasciste en France. Il n'y a jamais eu d'aggiornamento, comme disent les éditorialistes intelligents, là-dessus, hein, du général Boulanger, Maurras, machin, puis.
Le racisme.
Ça c'est en Belgique. Et l'expérience Pétain, par exemple.
La Belgique, c'est un peu la France.
L'expérience Pétain, Et on est dans une atmosphère de pétainisme, c'est-à-dire, en vérité, comme le disait Annie Lacroix-Ri, en parlant du pétainisme, une atmosphère de défaitisme. Hein, le choix de la défaite en 1940 des élites françaises, hein, de la bourgeoisie française, hein, par anti-communisme. Et puis parce qu'il y a une situation, je pense, et ça c'est une erreur que font peut-être peut-être beaucoup de nos camarades, et y compris certains de nos auditeurs, je le sais, c'est de distinguer la situation internationale de la situation nationale. Si on a une telle ambiance aujourd'hui de racisme décomplexé, de néocolonialisme, de néopéténisme, avec ce florilège de candidature du Dr Zemmour et de Mr Burns, de la famille Le Pen et de Macron y compris, qui est un grand admirateur, donc si j'ai bien compris, de Pétain, de Maurras, etc. Si on est dans cette situation-là, c'est que le capitalisme français...
Et tous les autres candidats à droite aussi, évidemment. Surenchérissent aussi, qui sera le plus brun, en fait.
C'est que le capitalisme français est dans une période de décadence absolue, hein, qui se mesure à plusieurs échelles. Hein. L'échelle interne, je dirais, c'est ce dont on vient de parler. Hein, c'est-à-dire que ce que peut proposer aujourd'hui la bourgeoisie française à la population à la veille d'une élection, c'est pas le cas partout. Hein. C'est le fascisme contre le fascisme, quoi, en gros. Hein. C'est la droite contre la droite.
Ça laisse pas beaucoup de choix. Hein.
T'as toujours la possibilité. Hein, mais ça se joue aussi à l'échelle européenne, hein, où en vérité les choix de l'Union européenne de donner à l'Allemagne, en gros, l'industrie et à la France la finance et la merde, quoi.
Les services,
voilà. Mais ça se joue aussi à l'international. Et il se passe des choses en ce moment. On assiste à une véritable défaite de l'impérialisme français, notamment sur le continent africain. Au Mali, par exemple. Je sais pas si t'as suivi un petit peu au Mali.
Un petit peu.
Ouais. Hein, donc où le gouvernement malien fait appel désormais à des mercenaires russes. Hein,
Je sais pas pourquoi la France est plus la bienvenue alors que ça fait quand même plus de 10 ans qu'on a des ça. Enfin. Officiellement, plus de 10 ans.
C'est l'opération Barkhane, c'est ça. Hein.
L'opération Barkhane, qui était l'opération Serval aussi.
Ouais. Et en fait, depuis 10 ans que la France est là-bas, en fait, ce qu'on appelle le djihadisme, hein, de manière un peu abusive. Hein,
il est là pour aider à lutter
contre le djihadisme.
Mais il progresse. À former aussi des soldats, former des soldats maliens.
Mais c'est de la blague, t'es au courant. Dans le nord du Mali, il y a un certain nombre de ressources. Et que, en vérité, la France est venue foutre la merde là-bas.
En plus, on est juste là dans le sud saharien. On n'est pas loin des puits de pétrole et de gaz.
Et de l'Algérie.
Donc, voilà.
L'Algérie. Alors, il y a aussi plein de trucs sur l'Algérie, là, avec le 17 octobre 61. Bon, il y a eu des hommages, etc. Mais en même temps, il y a plein de. Bon, c'est un jeu à plusieurs. C'est du billard à trois bandes, quand même, hein, mais. On sent bien que la France, je sais pas, hein, moi j'ai un copain africain qui m'a dit « Non mais la France, en vérité, vous pouvez pas comprendre, vous les Français, c'est comme un peu comme vous voyez Hitler là, dans l'histoire. Nous les Africains, on commence à voir la France comme ça. »
Ah bah oui, il a pas tort.
En Guinée, bon, il y a eu un putsch, on sait pas trop ce que ça va donner au final, mais... Au départ, c'est quand même un coup dans la domination française. En Centrafrique, c'est terminé. Hein. Là, c'est la France est hors jeu. Bon, moi, j'ai encore quelques contacts avec le porte-parole du gouvernement de République centrafricaine, qui n'est autre que Albert, qui animait ici une émission intitulée
L'écho des tropiques,
et qui est désormais porte-parole du gouvernement centrafricain depuis quelques années déjà. Ah, moi, je lui ai dit, non, mais attends, la France, vous en voulez plus, d'accord, ok. Mais la dette que t'as, la buvette associative de Radio Campus, celle-là non plus, tu la payes pas ?
Celle-là non plus, tu la payes pas.
Non, ils payent pas non plus. On paye plus rien, ils veulent plus rien payer. Hein. Et alors, tout ça se joue. Enfin, je veux dire, quand on parle de la France, on peut parler aussi des États-Unis, hein, mais tout ça se joue au moment où les États-Unis viennent de quitter l'Afghanistan. Et ils viennent de quitter l'Afghanistan, et à peine ont-ils quitté l'Afghanistan que la Chine y est déjà. Je sais pas si t'as remarqué.
C'est bizarre.
Ouais, non, mais. Donc tout le monde discute avec les talibans, mais on discute bien avec les saoudiens, hein. Donc on peut discuter avec les talibans de l'autre côté. Et en fait, les Chinois ont déjà proposé au nouvel Afghanistan, si je puis dire, à peine les Américains partis, ont déjà discuté de les intégrer dans leur grand projet de nouvelle route de la soie.
Et est-ce qu'ils ont envoyé des soldats là-bas ?
Non.
Ils n'ont pas envoyé de soldats.
Non, ils n'envoient pas de soldats. Ils envoient du pognon, des ingénieurs, machin, etc. Et bon, c'est ça la différence qu'on voit aussi, c'est qu'on est dans une période très intéressante de rupture, hein, puisque que ça soit les États-Unis ou la France, qui est le caniche des États-Unis, hein, je reviens pas sur l'histoire des sous-marins, qui montre à quel point. La France est dans une période sombre d'un point de vue de son impérialisme.
Voilà, comment on appelle ça, c'est le déclassement.
Le déclassement, c'est le déclin,
le déclassement.
C'est-à-dire qu'ils sont à la remorque de gens qui sont déjà décadents. Ils sont en plus bas que les États-Unis.
Hein. Ouais, ça, faut le faire.
Et
je sais pas, en général, en fait, quand tu vois...
Normalement, ils auraient dû sortir de l'OTAN. Normalement, avec l'histoire des sous-marins, la France aurait dû sortir de l'OTAN.
Quand tu vois que ton maître faiblit...
Même Chirac l'aurait peut-être fait.
Quand tu vois que ton maître faiblit, tu peux te dire, bon, je vais prendre sa place.
Et qu'il te trahit.
Il vient, il arrive et tout, il te pisse sur la tête et tout, machin. Ouais, t'inquiète, ça va te faire du bien, c'est un bon shampoing. Et si tu vois ça, normalement, ou tu te barres, ou bien tu le renverses. Et non, on reste. Hein,
on reste. Hein.
La fidélité française, quand même, c'est,
aux
c'est quelque chose.
Ouais. Et donc, c'est quand même pas amusant. Je veux dire.